le dernier livre de l'Ancien Testament, finalement, c'est Néhémie, et c'est ce livre que nous allons parcourir et étudier. Mais vous n'allez pas trouver Néhémie tout à la fin, après Malachie, vous allez les trouver avant les psaumes, avant Job, avant Esther, même s'il a vécu en même temps que des prophètes comme Malachie, qui est tout à la fin de l'Ancien Testament. Alors maintenant que vous avez trouvé le livre de Néhémie, c'est page 483 sur les Bibles que prête l'Église, en tout cas, nous allons faire la lecture du premier chapitre et aussi déborder dans le chapitre 2. Donc Néhémie 1, ce matin. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël. En confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta forte main. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Au mois de Nissan, la 20e année du roi d'Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade, ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis, « Au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu ?» Et le roi me dit, « Que demandes-tu ? » Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, « Si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. » Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, « Combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour ?» Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps, puis je dis au roi, « Si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. » Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres du roi, qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala le Horonite et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qui venait à Nom pour chercher le bien des enfants d'Israël. Cette dernière phrase-là résume bien le cœur et la démarche de Néhémie. Il veut chercher le bien de son peuple. Il fait ce long voyage pour chercher le bien de son peuple, de cette ville de Jérusalem. Et il faut savoir que le peuple, comme vous l'avez vu, ce peuple, son peuple, à ce moment dans l'histoire, il se trouve dans une situation critique, une situation dramatique, une situation bien malheureuse. Et Dieu va utiliser Néhémie pour apporter reconstruction, pour apporter restauration, pour apporter réparation, non seulement des murailles, mais aussi de ce peuple et de sa foi et de son identité et de sa relation avec Dieu. Ça, c'est un beau message, de la ruine à la restauration. Comme vous savez, la démolition est beaucoup plus facile que la construction. Nous, les êtres humains, nous sommes bien plus doués pour ruiner, que pour restaurer. La démolition, souvent, c'est une affaire d'un jour. La construction, c'est parfois une affaire des années. Et spirituellement et moralement, c'est souvent le cas. Depuis que le péché est entré dans le monde, nous sommes assez doués pour démolir, pour détruire notre bonheur, pour détruire notre planète, pour détruire nos mariages, pour détruire nos églises. Mais le message de la Bible, qui parcourt toute la Bible, c'est qu'il y a un Dieu, et ce Dieu, lui, il est doué pour restaurer, pour reconstruire, pour réparer, pour faire revivre. Et c'est ça l'histoire de Néhémie. Et ça nous concerne aussi à notre époque, lorsqu'on fait l'état des lieux de l'Église en France aujourd'hui. Comment ne pas aussi voir notre besoin d'une reconstruction, d'une restauration de Dieu qui agit pour nous. Certes, il y a des choses réjouissantes quand on pense à l'Église évangélique en France ou dans d'autres pays. Il y a de nouvelles églises. On parle de beaucoup de mes confrères, de mes collègues, peuvent témoigner plutôt des bonnes relations avec nos autorités en ce moment que peuvent jouir l'Église et les évangéliques. Donc ça nous réjouit. Mais il y a aussi des choses inquiétantes, des choses alarmantes. Déjà, en tant que chrétiens évangéliques, nous sommes tellement minoritaires dans ce pays. Vous savez à quel point le quotidien peut être difficile pour vivre votre foi. Devenir chrétien aujourd'hui, c'est vraiment un choix à contre-courant. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui vous fait hésiter, certains d'entre vous, à vous engager vraiment auprès de Dieu, parce que vous voyez si peu de chrétiens. C'est pas la pensée majoritaire. Pour les chrétiens aujourd'hui, c'est difficile de garder une identité et des convictions chrétiennes. Surtout parce qu'on est entouré par une vision du monde qui est de plus en plus hostile et opposée à notre foi. Les murailles, en quelque sorte, ne tiennent plus. Il y a des mauvais signes, même pour notre génération, la connaissance de la Bible, l'attachement à la bonne doctrine, ce qui fonctionne un peu comme les murailles pour l'Église, ces choses sont un peu battues en brèche. La tendance qu'on peut constater, c'est un appauvrissement de la connaissance biblique, de la bonne théologie. Quand on regarde sur Internet, il y a beaucoup de bonnes ressources pour les chrétiens, mais il y a aussi beaucoup de bêtises. Et malheureusement, les bêtises remportent parfois sur les bonnes choses, si on mesure en tout cas par trafic d'Internet. Donc c'est sûr, nous avons nous aussi à notre époque, nous avons besoin de la bonne main de Dieu. C'est ce que dit un des versets, le verset 8, chapitre 2. Nous avons besoin de la bonne main de Dieu pour nous restaurer, pour nous réveiller, pour nous redonner confiance dans le projet de Dieu pour son Église, pour son peuple. Nous redonner confiance pour l'avenir qu'il a en réserve pour nous. Et c'est ce que Néhémie voulait pour son peuple. Et c'est dans ce sens qu'il va agir. Alors ce matin, voyons ce que Néhémie a fait devant la situation critique, la situation dramatique de son peuple. Nous allons voir d'abord ses pleurs, ensuite nous allons voir ses prières, et enfin nous allons voir son passage à l'action. Commençons avec ses pleurs. Dans les premiers versets, Néhémie reçoit des nouvelles de son frère Hananié, qui est arrivé de Jérusalem en Perse. Néhémie se trouve en Perse, à Suse, qui est la capitale, et son frère lui apporte des nouvelles de son peuple et de la ville de Jérusalem. Et quand il entend ces nouvelles, il est abasourdi. Il pleure, il s'assied, il pleure, il est dans la désolation, selon verset 4. Alors, pour comprendre ces pleurs, il faut faire un peu d'histoire. Il faut savoir que bien avant, plus d'un siècle avant, la ville de Jérusalem avait été détruite par les armées babyloniennes, le temple brûlé, le peuple avait été déporté en Babylone. Bon, les prophètes et le peuple ont compris que c'était le châtiment divin à cause de leur désobéissance que Babylone a pu faire tout ça. Donc la ville détruite, le temple détruit, tout ça, c'est le châtiment divin. Et à l'époque, les prophètes comme Jérémie avaient pleuré ça aussi. Les Lamentations de Jérémie, c'est un livre de la Bible où Jérémie pleure la destruction de la ville de Jérusalem. Mais maintenant, le temps a passé. On est plus d'un siècle plus tard. L'Empire babylonien n'est plus. Cet empire est remplacé par un autre, par les Perses. Et les prophètes, même, ils avaient annoncé 70 ans de captivité, et puis un retour. Et ces promesses commencent à se réaliser. Et justement, un roi perse, qui s'appelle Cyrus, lui, il avait autorisé les Juifs à revenir et à reconstruire leur temple et leur ville. Donc, c'était pas l'édit de Nantes, c'était l'édit de Cyrus. Mais c'était un édit très important, parce que le peuple pouvait revenir et commencer à revivre leur foi dans leur pays, dans leur ville, à Jérusalem, avec leur temple. Les Perses avaient une autre politique par rapport aux Babyloniens. Les Perses trouvaient plus intéressant de plutôt laisser les peuples adorer leur propre Dieu. Cyrus, c'était pas forcément un chrétien évangélique qui voulait qu'il y ait des temples et des églises partout, mais il se disait, plus qu'il y a de prières à tous ces différents dieux, peut-être un dieu va vouloir me bénir. Donc, je préfère que ces peuples soient plutôt, et leur culte chacun, et ça m'arrange. Et donc, ça, c'était un peu la politique perse. Alors, nouvelle politique, ils peuvent reconstruire, Dieu n'est plus en colère, il a annoncé ce retour, et donc, il commence à revenir. Et c'est merveilleux, il n'y a plus qu'à en avant. Donc les Juifs reviennent, et puis ils ont ces beaux cantiques, certainement, sur le chemin, ils chantent comme le psaume 126, un cantique que nous aimons bien dans notre église. Nous sommes dans la joie, nous sommes dans la joie. L'Éternel nous ramène de la captivité, nous sommes dans la joie grâce à sa victoire. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Donc ça, c'est ce que les Juifs chantent en ce moment, parce qu'ils voient, une restauration qui commence. Et puis, il y a un arrêté impérial, on va dire, comme quoi les travaux doivent s'arrêter. Cyrus avait dit oui, édit de Cyrus, comme l'édit de Nantes, et puis il y avait révocation de l'édit de Cyrus. Et un certain roi, qui s'appelle Artaxerxès, dont il est question ici, Artaxerxès a dit, oula, cette ville, c'est un peu comme La Rochelle, la rebelle. Hein. Donc, on va arrêter les travaux pour voir ce qu'ils sont en train de faire, parce que il a peur que Jérusalem commence à fomenter une rébellion. Vous avez ces détails dans le livre d'Esdras, qui va de pair avec Néhémie. Mais Esdras chapitre 4 raconte comment Artaxerxès a fait arrêter les travaux de restauration sur le temple. Et là, c'est la catastrophe. Ce bel élan de bénédiction, de retour au Seigneur, de retour à Jérusalem, là tout semble avorté. Et vous savez, un chantier qui est abandonné, déjà ça se dégrade très vite. Et en plus, les Juifs ne manquaient pas d'adversaires pour visiter et piller le chantier. Peut-être jeter un petit mégot dans un tas de bois sec, par accident. Et puis... Donc, beaucoup pensent qu'Anani, ici, il ne parle pas d'une histoire vieille de l'époque de Jérémie et de Babylone. Il parle des ruines récentes, parce que les travaux avaient commencé, mais maintenant, c'est de nouveau le catastrophe. Aujourd'hui, par exemple, personne ne pleure, personne ne se désole du naufrage du Titanic. Ça remonte à un siècle, même si c'était un drame. Aujourd'hui, on va plus être choqué ou pleurer les drames récents. Et c'est le cas de Néhémie. Il est complètement abattu parce que il espérait, normalement, tout ce peuple pensait que les choses allaient mieux, que Dieu était pour eux. Mais voici des mauvaises nouvelles. Le peuple et la ville est au comble du malheur et de l'opprobre. Et donc, il va s'asseoir, il va pleurer plusieurs jours dans la désolation. Notez en passant que Néhémie n'est pas un membre du clergé, un prêtre, un prophète. C'est un fonctionnaire en milieu séculier. Mais lui, il est vraiment interpellé par la situation de son peuple et la situation de Jérusalem. Et donc là, vous commencez à pouvoir comprendre ses pleurs quand on a refait un peu cette histoire. Parce que le peuple, ils avaient des belles promesses de Dieu sur une restauration, sur un retour. Et Esaïe avait parlé de ça, Jérémie avait parlé de ça, Ézéchiel avait parlé de ça. Ils avaient des promesses d'un retour, ils avaient des promesses d'un super temple tout neuf, glorieux, plus. Et les choses semblent bien commencer, mais la réalité est tout autre. Et puis Néhémie, il voit les enjeux aussi. S'il n'y a pas de muraille, à Jérusalem. Donc, il n'y a pas de ville. Les champs et les païens vont envahir, assimiler la ville. Et pas de murailles, pas de ville. S'il n'y a pas de ville, il n'y a pas de temple. Et s'il n'y a pas de temple, il n'y a pas un vrai culte à Dieu, au seul vrai Dieu du ciel, de la terre, de l'univers. Et là, c'est l'opprobre pour lui, c'est l'opprobre pour notre peuple. Notre peuple n'a plus d'identité, n'a plus d'avenir. Même le Messie qui doit venir, tout ça, ça tombe à l'eau. S'il n'y a pas ce temple et cette ville et ces murailles dont Dieu a pourtant promis aller se mettre en place, il est très affecté. Et je pense que ce même schéma aussi peut nous affecter. En quoi on arrive à comprendre quand le malheur nous arrive à cause des mauvais choix? Quand on désobéit vraiment, quand on agit contre Dieu, les conséquences peuvent nous arriver. Ça, on arrive à peu près à les comprendre. Mais le malheur qui arrive lorsque nous marchons dans la volonté de Dieu, lorsque nous entreprenons des choses pour lui, c'est ça qui est difficile. En tant que chrétien, on a toutes sortes de promesses de Dieu, des belles promesses. Dieu va pourvoir à tous nos besoins. Dieu va nous sanctifier, il va nous transformer à l'image de Christ. Dieu va veiller sur son église, la garder dans l'unité. Il va bâtir son église dans le monde entier. On a ces promesses, mais parfois la réalité du quotidien semble en décalé avec ces promesses. Ou parfois vous vivez quelque chose, vous vivez une épreuve, et puis vous avez l'impression de sortir un peu de l'épreuve, les choses semblent aller mieux. Peut-être c'est une situation de santé, peut-être c'est une situation de couple, une situation d'église, une situation avec un collègue. Et ça a été difficile, mais puis vous avez saisi les promesses de Dieu, vous avez prié, et puis on remonte la pente. Et à ce moment, mauvaise nouvelle, rechute, marche arrière. Ça, c'est très difficile à vivre. Et on a toutes ces questions, mais qu'en est-il de la parole de Dieu? Qu'en est-il de ses promesses? Est-ce qu'il m'a oublié? À Néhémie, il a pourtant dit qu'il y aura une ville reconstruite, qu'il y aura un nouveau temple. Et qu'est-ce que je vois? C'est la désolation, je comprends plus. Ça, c'est les pleurs de Néhémie. Mais il n'arrête pas au stade des pleurs, il va passer à la prière, comme nous avons déjà beaucoup parlé ce matin. Voyons maintenant ses prières dans les versets suivants. Par la suite, dans les dimanches à venir, on aura l'occasion de faire meilleure connaissance avec Néhémie. Cet homme, c'est vraiment un homme attachant dans la Bible. Et vous allez voir que Néhémie, c'est un homme d'action. C'est un meneur de projet. C'est un gars qui a la suite dans les idées. C'est un fougueux. Mais quand il entend les nouvelles dramatiques de Jérusalem, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez vu ce qu'il fait? Cet homme d'action, ce meneur de projet, eh bien, il s'assoit et il prie. Et d'après le verset 6 même, il prie jour et nuit. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit. Et même on apprend, si on met ensemble le chapitre 1, verset 1 et le chapitre 2, verset 1, on a même des dates, des mois qui nous sont donnés. Et donc, Néhémie apprend la mauvaise nouvelle. Le mois de Kisle, ça correspond à novembre, décembre pour nous. Et il va avoir son audience avec le roi au mois de Nissan, ça correspond à mars, avril. Donc, on pense que pendant 4 mois, il a prié ce genre de prière. Bien sûr, c'est un résumé, mais c'est 4 mois de prière entre la mauvaise nouvelle et le jour où Dieu lui permet d'avoir un échange avec le roi. Donc, 4 mois de prière. Et puis, regardez cette prière. C'est un modèle encore de prière de la Bible. On en a déjà lu avec Salomon, mais ici, Néhémie, c'est très touchant. D'abord, il rappelle qui est Dieu. Ô éternel, verset 5, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, qui garde ton alliance, qui fait miséricorde. Donc, il rappelle la grandeur de Dieu. Il regarde son côté redoutable. Il rappelle qu'il trône dans les cieux. Il rappelle que c'est un Dieu fidèle. Il rappelle que c'est un Dieu miséricordieux. Si quelque chose vous chamboule dans la vie, recentrez vos pensées d'abord sur Dieu, sur son caractère, sur ce qu'il est. Souvent, nos problèmes, c'est pas nos circonstances, c'est notre vision, notre compréhension de Dieu. Et la première étape, c'est de revoir notre connaissance, notre compréhension de Dieu, même avant que les circonstances vont changer. Mais si on connaît ce Dieu des cieux, ce Dieu redoutable, ce Dieu grand, eh bien les murailles et tout ça, ça prend une deuxième place. Donc il rappelle qui est Dieu. Et c'est déjà, ça va le poser, le recentrer sur les bonnes choses. Ensuite, il s'humilie dans les versets suivants, à partir du verset 6, 7, 8. On trouve chez Néhémie cet esprit contrit, cet esprit de repentance, où il reconnaît que des choses qui arrivent à son peuple, ça fait partie du plan de Dieu, de ses jugements. Nous avons péché, mes pères ont péché, j'ai péché. Et ce qui est arrivé est un côté juste dans tout ça. Et d'aborder Dieu avec cet esprit de repentance, ça aide beaucoup. Quel que soit le malheur qui nous arrive, on se rend compte que finalement, on mérite bien pire de toute façon. Ça aussi, ça nous calme. Et puis enfin, Néhémie montre que dans les requêtes qu'il va enfin formuler, après une adoration, après une confession, il va prier pour sa ville. Mais même là, il montre que sa pensée est baignée de la parole et de la promesse de Dieu. Donc il va citer Moïse, il va citer les prières, il va certainement penser aussi à cette prière de Salomon, que lorsque nous sommes dispersés en exil, tu as dit que nous pouvons prier ainsi. Donc il reprit les vérités de la parole. Donc c'est vraiment une belle prière. Et c'est ce qu'il va vivre pendant 4 mois. Alors, est-ce qu'il prie cette même prière chaque jour, ou est-ce que cette prière montre une progression dans ses pensées pendant 4 mois? Peu importe, mais on voit que Néhémie, tout commence finalement dans la prière ici. Et c'est sûr qu'on va voir de belles choses dans la suite du livre. On va voir un homme qui va rempli d'action. Mais ce n'est pas anodin que tout commence dans la prière. Et nous sommes convaincus, nous savons que le réveil, la restauration, le retour à Dieu commence toujours ainsi. Alors si quelque chose vous tracasse ce matin, vous peine, vous met hors de vous-même, vous fait bouillir le sang, vous désole, et que vous voulez agir, vous voulez faire quelque chose, je vous conseille la méthode de Néhémie. Pour se remettre à Dieu, commencez dans la prière. Peut-être il y a un projet grandiose de partir en mission. Ben souvent tout ça est né dans la prière. Peut-être une situation de couple, une situation avec un collègue. Avant de précipiter l'action, de faire le zorro et de tout arranger, si Néhémie s'est remis pendant 4 mois à Dieu, nous pouvons le faire aussi. Donc Néhémie, suite à cette nouvelle, des pleurs qu'on peut comprendre. Et puis des prières soutenues qui va le recentrer, qui va l'aider à fixer ses pensées sur Dieu, sur ses promesses. Et enfin, son passage à l'action. La prière n'exclut pas l'action. Ce que disait George Verver il y a quelques jours, il parlait beaucoup de la prière, mais il a dit que la prière n'exclut pas l'action. Et Néhémie, me semble, nous montre cet équilibre entre beaucoup prier, mais aussi beaucoup agir par la foi en conséquence de la parole de Dieu. Je donne une petite image. Beaucoup ont prié avant le repas. C'est une bonne chose. Et parfois, ces prières peuvent devenir un peu routines. On prie 3 fois par jour. C'est un peu normal qu'on répète certaines des mêmes choses. Mais vous avez tous entendu ce genre de prière. Seigneur, merci pour ce repas et bénis ceux qui n'en ont pas. Merci pour ce repas et bénis ceux qui n'en ont pas. Et on répète ça souvent. Et c'est bien de prier pour ceux qui n'en ont pas. Mais si on prie ainsi toute une vie, sans jamais faire quelque chose pour ceux qui n'en ont pas, y a-t-il pas un décalage entre la prière, les bonnes prières, mais ce que Dieu nous appelle à faire et à vivre? Si jamais on se soucie ou s'implique dans une vie d'église, une vie de service, une vie missionnaire, pour justement ceux qui n'en ont pas, est-ce normal? Et Néhémie va agir ainsi. Il va prier, oui, 4 mois de prière. Mais pendant ce temps de prière, Dieu va lui le guider, il va exaucer ses prières. Et il y a un projet qui se dessine. Et Néhémie, un jour, il va passer à l'action. Alors regardez la fin de sa prière, verset 11. Donc après adoration, confession, supplication, ça devient assez précis. Verset 11, « Ah Seigneur, que ton oreille soit attentif à la prière de ton serviteur. » Et puis il dit, « Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. » C'est qui cet homme? Et qu'est-ce qu'il demande concrètement? Eh bien cet homme, c'est le roi. Peut-être il prie ça chaque jour. « Seigneur, donne-moi aujourd'hui une occasion de parler à mon chef. » Ou peut-être, après 4 mois, il sent que c'est le moment d'agir. En tout cas, on apprend qu'il est échanson. C'est-à-dire, il est au service du roi. Et à l'époque, un échanson, c'était pas juste un sommelier qui va sélectionner les vins avec une belle robe et un nez intense, complexe, avec des touches de fruits petits fruits noirs. Un échanson, c'était plutôt un ministre chargé de la sécurité ou bien un chef du garde-corps parce qu'il va vérifier que le vin du roi n'est pas empoisonné. Donc, quelque part, il veille sur la vie du roi et donc c'est une position qui est très haut placée dans le royaume. Et on voit ça à travers la Bible. Dieu a placé parmi de ses enfants, parfois dans des postes élevés, comme Daniel, comme Esther et ici Néhémie, pour agir pour le bien de son peuple. Et donc, Néhémie prie, il prie que Dieu lui donne une occasion, qu'il puisse trouver grâce auprès de cet homme, de ce roi. Et puis un jour se présente, il semble qu'il a mauvaise mine ce jour-là, est-ce qu'il a fait exprès ou pas? En tout cas, le roi remarque, et le roi lui questionne, mais pourquoi t'es triste aujourd'hui? Et là, il va, fort de ses mois de prière, il va oser agir, il va oser dire quelque chose. Il va oser en parler au roi de la situation à Jérusalem. Mais on comprend qu'il est rempli de crainte. Verset 2. Je fus saisi d'une grande crainte. C'est ce qu'il voulait que Dieu lui donne une occasion d'en parler. Mais le jour que le roi lui a demandé, il tremble de crainte. Parce que c'est ce roi Artaxerxès, on pense, qui a fait arrêter les travaux à l'époque, en Esdras chapitre 4. Donc il va demander au même roi qui a révoqué l'édit de pouvoir agir. Et donc il doit se prendre avec sagesse parce qu'il va plaider en faveur de Jérusalem qui est accusée d'être une ville rebelle contre l'Empire. Sa demande est risquée. Il va risquer sa position, il va risquer sa place d'échanson pour aborder le sujet avec le roi. Et il se prend avec sagesse, on voit verset 3, il mentionne pas encore le nom de Jérusalem. Il parle juste de la ville de ses pères, où sont les sépulcres de son père. Et ce jour-là, c'est là où on voit l'exaucement déjà de la prière, le roi est bien disposé. Le roi se fâche pas, le roi dit, oh là là, ça c'est une ville rebelle, j'aimerais écraser cette ville. Non, le roi dit, mais, ok, qu'est-ce que tu me demandes, qu'est-ce que tu veux? Et là, Néhémie fait sa fameuse prière éclair, verset 4. Le roi me dit, que demandes-tu? Je prie le Dieu des cieux et je répondis au roi. Vous savez, les prières éclair, c'est bien, cela rappelle qu'à tout moment de la journée, dans n'importe quelle situation, nous tous, nous avons accès à Dieu, nous pouvons prier des courtes prières, Seigneur, aide-moi, donne-moi les bonnes paroles. Le collègue demain, il va vous demander, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Ou il va te demander, mais qu'est-ce que tu lis en ce moment? C'est quoi cette Bible sur ton bureau? Et là, petite prière, Seigneur, aide-moi. Et puis, c'est pas le moment de faire 4 mois de prière, peut-être. C'est le moment de parler, c'est le moment d'agir. Mais vous avez droit à des prières éclairs à tout moment. Mais je rappelle que derrière cette prière claire, il y avait toute une vie de prière derrière, comme nous avons vu. Et là, donc inspiré, il prend son courage et il répond au roi et il dit, ok, envoie-moi en Jérusalem. Et visiblement, il a réfléchi à bien des choses. Il a réfléchi à la durée du voyage, il a réfléchi au coût du voyage, il a réfléchi à ce qu'il lui fallait. Donc tout ça, Néhémie, c'est pas... Il allie prière et puis action et réflexion et décision. Et quelque part, il peut déjà, ce jour-là, donner au roi un dossier qui est tout prêt. Parce que vous voyez ces demandes, c'est incroyable. Le roi dit, ok, combien de temps il te faut? Eh ben, il me faut ça. Combien d'argent ça va de mon côté? Ok, il me faut ça. Et puis même, il très courageusement, il dit au roi, et est-ce que tu peux aussi me donner les permis de construire. Est-ce que tu peux me payer aussi le bois, tout le matériel? J'aimerais ça et ça. Tu me fais des lettres signées et puis comme ça, j'aurai tout ce qu'il faut pour mon projet. Voilà, quelle audace, quel courage, mais Néhémie, c'est Néhémie. Il va demander au roi ces choses et le roi lui signe tout. C'est merveilleux. Et il comprend que la bonne main de Dieu était sur lui, que Dieu a exaucé ses prières, que maintenant il va pouvoir aller. Et donc le verset 9, il se rend auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve. Une petite phrase pour parler quand même d'un très long voyage en partant de la Perse. Le fleuve, c'est l'Euphrate, mais voilà, c'est un peu de l'autre côté du fleuve, c'est vers Israël. Donc il fait ce long voyage. Un voyage qui est long et dangereux. Ezra savait que c'était dangereux, il s'est remis à Dieu, que Dieu le protège tout au long du voyage. Ici, Néhémie, il va bénéficier des cavaliers et des chefs de l'armée pour le protéger. Donc c'est un long voyage, c'est un voyage dangereux. Et puis, de suite, on nous avertit, verset 10, que Néhémie va vers l'opposition et l'hostilité certaine, avec déjà des antagonistes que nous allons découvrir dans la suite. Mais vous voyez, Néhémie, au lieu de rester dans le palais du roi, au lieu d'être là confortable à goûter les bons vins, il va laisser de côté son salaire de ministre. Il va faire ce voyage dangereux, risqué. Tout ça pour chercher le bien du peuple de Dieu et pour voir cette restauration. Donc vous voyez, ses pleurs et ses prières le poussent à l'action pour le bien du peuple de Dieu. Et nous aussi, nous savons que Dieu veut agir dans ce sens dans nos vies. Vous êtes peut-être ce matin au comble du malheur, de l'opprobre. Ou bien c'est difficile de vivre cette vie de chrétien aujourd'hui tellement on est minoritaire, on est entouré par plein de pressions du monde qui veut finalement anéantir notre foi. Des fois on se demande, nous les évangéliques, est-ce que nous sommes une race en voie de disparition, tellement les idées courantes parfois veulent nous entourer. Vous êtes au comble du malheur peut-être, ou vous êtes déjà sur la voie de la restauration. Dieu a déjà fait des belles choses dans votre vie. Vous lui avez apporté les ruines de votre vie. Il commence à vous restaurer. Mais vous êtes très surpris parce qu'il y a tant d'obstacles, tant de rebondissements, tant de marches arrière des fois. Ou bien ce processus de restauration est beaucoup plus lent que vous le pensiez. C'est ce que eux, ils ont vécu aussi. Mais sachez que la bonne main de Dieu peut être sur vous. Cette bonne main sera sur vous. Je le sais parce que Jésus Christ est la preuve que cette restauration est en cours dans nos vies, dans notre pays, dans notre monde. Jésus aussi nous garantit cette restauration. Et comme Néhémie, Jésus, lui, il a renoncé à son palais, il a renoncé à sa gloire pour entreprendre un voyage risqué, dangereux, face à une hostilité certaine. Jésus a fait plus que risquer sa vie, il a donné sa vie pour nous à la croix. Cette même ville de Jérusalem, dans ce même endroit, il va mourir à la croix. Tout ça pour construire le nouveau peuple de Dieu, nous, pour restaurer les ruines de notre vie, de notre monde, pour réaliser et faire réaliser les promesses de Dieu que les prophètes nous ont laissées à travers toutes les Écritures. Jésus est venu pour les garantir. Et si vous êtes en Christ, si vous avez Christ comme celui qui est là pour vous restaurer, pour vous conduire, pour mener son projet dans votre vie, eh bien vous pouvez savoir que la bonne main de Dieu est sur vous. Même s'il prend son temps, même s'il fait des choses pas exactement comme vous l'avez entendu, eh bien il est en train de restaurer son peuple. Et l'avenir de l'Église de Jésus-Christ, votre avenir en tant que chrétien, est un avenir merveilleux. Et si ce n'est pas le cas ce matin, si vous ne faites pas partie de ce peuple, je vous invite à rejoindre ce peuple de Dieu, ce peuple chrétien, qui bénéficie d'un tel chef, un tel dirigeant, bien mieux que Néhémie. Et ce Jésus, il ne cesse d'agir et de chercher notre bien. Comme Néhémie a cherché le bien du peuple, Jésus cherche votre bien, il cherche notre bien éternel. Et il a toutes les autorisations pour agir en votre faveur, pour vous restaurer, pour vous redonner confiance dans l'avenir que Dieu réserve pour nous. Que nous puissions suivre ce Jésus et attendre de grandes choses de lui. Terminons dans la prière. Seigneur, encore ce matin, nous voulons, s'il faut, t'apporter les ruines de notre vie, les déceptions, nos fautes, nos péchés, toutes les manières que nous avons plutôt démoli notre bonheur et les bonnes choses de cette vie. Mais nous savons que tu peux réparer tout cela. Te remercions pour Jésus, Christ qui est venu, qui a connu lui-même la désolation et la ruine à la croix. Il a été brisé pour porter à notre place ce jugement. Et puis il est ressuscité et cette puissance de résurrection est encore agissante dans nos vies personnelles, notre vie d'église. Et nous te prions encore de nous construire, de nous reconstruire s'il faut. Nous voulons saisir cette promesse d'un bel avenir pour ton église, pour ton peuple, que ça soit ici en France ou d'autres pays comme l'Iran, comme les pays où c'est difficile de vivre aujourd'hui la foi. Nous savons que tu es en train de construire un peuple qui va tenir fort face à tout obstacle, toute épreuve, parce que nous avons Jésus et il est ce Dieu tout-puissant. Nous te bénissons pour le culte que nous avons vécu ensemble ce matin et nous te prions encore de nous aider à vivre cette vie de prière, cette vie de dépendance sur toi, jour après jour. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen.